Nous sommes dans cette série de messages sur le livre de l'Apocalypse, qui s'appelle en réalité le livre de la Révélation, vous avez bien retenu. Et nous sommes au chapitre 2. Nous avions vu la dernière fois la révélation de Jésus-Christ lui-même comme un être glorieux, un être qui juge aussi les églises et qui se révèle aux sept étoiles. Qui sont les sept étoiles ? Oui, sept églises, c'est en fait sept messagers aussi. Les sept messagers des sept églises. Donc Christ va parler à des messagers qui vont retransmettre son message aux sept églises. Et nous sommes là dans la première, c'est un message pour l'église, un message du Seigneur. Donc si ça nous dérange, ne me cherchez pas des problèmes à moi, c'est la parole du Seigneur. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Christ marche au milieu des églises qui sont représentées par des chandeliers. Pourquoi des chandeliers ? Parce que les églises sont appelées à éclairer par la lumière de Christ. Nous sommes des comme la lune, nous sommes des satellites. La lune n'a pas de lumière en elle-même, elle reflète la lumière du soleil. Eh bien, les églises doivent refléter la lumière de Christ qui leur est donnée. Les églises n'ont rien en elles-mêmes. Une église ne sauve personne. Une église ne détient pas à elle seule toute la vérité. Christ est le Sauveur, Christ est la lumière. Mais Christ a formé l'Église, son corps et les Églises, pour manifester sa parole et sa vie sur la terre. Christ a vécu sur la terre une vie d'homme, on voit ça dans les évangiles, les quatre évangiles, on voit la vie de Jésus sur la terre. Mais quand il est ressuscité, qu'il est remonté au ciel, il a envoyé son esprit. Et désormais, Christ est toujours sur la terre, mais à travers son corps mystique, comme on l'appelle, ou spirituel, c'est-à-dire l'Église ou les Églises. Christ agit toujours, mais à travers les Églises. Et les Églises, c'est quoi ? Est-ce que ce sont des organisations ? Est-ce que ce sont des associations, des entreprises, des clubs ? Non. L'Église est un organisme vivant, composé d'êtres vivants, de chrétiens qui ont reçu le Saint-Esprit. L'Église, ce n'est pas un bâtiment, l'Église, c'est un groupe de croyants réunis autour du Seigneur, dans un lieu, là où ils participent de l'amour de Christ, là où ils prêchent la parole, là où on baptise, là où on sert la Sainte Cène. C'est là ce qui fait une Église. Il y a l'Église universelle, c'est-à-dire l'ensemble de tous les croyants qui ont existé depuis que Jésus-Christ est ressuscité et monté au ciel, les morts et les vivants. Et puis il y a surtout les églises locales, puisque c'est à travers les églises locales qu'on peut voir. L'Église universelle, on ne la voit pas. L'Église locale, les églises locales sont visibles et actives. Pourquoi Jésus prend-il le temps dans l'Apocalypse de juger les sept églises ? Pourquoi le livre de l'Apocalypse commence par le jugement des sept églises? Bonne question. Je vous remercie de me l'avoir posée. Pourquoi sept églises? Vous savez que le chiffre 7 représente la plénitude dans la Bible. Et sept églises, ça veut dire toutes les églises de tous les temps, de tous les lieux. À travers ces sept églises, Christ parle à toutes les églises, y compris la nôtre ici, à Paris, au XXIe siècle. Ensuite, pourquoi juge-t-il les églises? Eh bien, la réponse à cette question se trouve dans la bouche de Pierre, 1 Pierre 4, 17. L'apôtre inspiré écrit « C'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. » Cette parole est très importante. Dieu ne juge pas son peuple en même temps que les incrédules. Il juge la maison de Dieu, qui est l'Église, à part, en premier. Et ensuite, il jugera le monde. Et c'est exactement le plan du livre de l'Apocalypse. Après la révélation de Christ, il juge les églises et ensuite, c'est les fléaux, il juge le monde. C'est pour cela que nous croyons que l'église ou les églises, les chrétiens nés de nouveau, seront enlevés avant que le jugement de l'Apocalypse ne tombe sur le monde. Dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 4, 1 Thessaloniciens 4, verset 15, « Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. » C'est-à-dire que c'est le Seigneur Jésus qui a dit ça aux apôtres. « Nous, les vivants, restés pour l'avènement, pour le retour de Christ, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. » Et les morts en Christ, c'est-à-dire les chrétiens qui sont morts, ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, si on est vivant ce jour-là du retour de Christ, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Oui, Jésus-Christ va revenir. Son retour va avoir deux étapes. La première étape, il va d'abord chercher ses enfants. Comme il l'a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, « Je vais vous préparer une place et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous chercher. » Et quand tous les enfants de Dieu seront partis à la rencontre du Seigneur dans les airs, ressuscités ou transformés pour ceux qui sont vivants, Jésus-Christ reviendra pour juger le monde. Et là, les fléaux vont commencer à s'abattre sur la terre, en jugement. Le premier fléau, ce sera l'Antéchrist lui-même, qui va établir une dictature abominable, qui va s'attaquer en priorité à Israël, le peuple de Dieu, mais à tous les croyants qui existeront par la suite, car il y a des gens qui vont se convertir après l'enlèvement de l'Église. Mais quand je pense à ce moment dont parle beaucoup l'Apocalypse, lorsque le Saint-Esprit, en fait, quittera la terre avec l'Église, puisque le Saint-Esprit est dans le cœur des croyants, le mal va pouvoir se déchaîner. Déjà, le mal est pas mal déchaîné, à mon avis. Mais imaginez quand il n'y aura plus rien pour le freiner. Plus aucun frein. Les ténèbres vont tomber d'un seul coup et je ne veux pas vivre cette époque-là. La Bible dit que si nous sommes enfants de Dieu, nous ne le vivrons pas. Ce jugement de Christ sur les églises, est-ce qu'il est définitif? Est-ce qu'il dit, voilà, tu n'as pas fait ci, tu as fait ça? Eh bien, là, on voit que non, puisqu'il appelle l'église d'Éphèse à se repentir. Donc, en fait, ce n'est pas des jugements à proprement parler, ce sont des avertissements. Il regarde les églises et il dit, voilà ce qui est bien. Ça, c'est bon. Mais ça, c'est pas bon. Il faut que tu corriges ça. Il faut que tu te repentes. Sinon, j'enlèverai ton chandelier. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'auras plus de témoignage. Tu n'auras plus de vie. Et même dans la dernière des sept églises, Laodicée, Christ n'est même plus dans l'église, puisqu'il est à la porte et il frappe. Imaginez hein, que le Seigneur soit dehors, en train d'attendre qu'on le laisse rentrer. Et nous, on est là, on pense que tout va bien, on est des bons chrétiens, on chante, et le Seigneur est à la porte. Quand le Seigneur retire son chandelier, il retire sa gloire, il retire la vie même. Ça devient des églises mortes. Il y a des églises mortes qui donnent la mort. C'est-à-dire où tout le monde dort spirituellement. Il peut y avoir des gens très actifs, très zélés, mais spirituellement, il n'y a pas la vie parce que les gens ne sont pas régénérés, ne sont pas sauvés. On ne prêche plus l'évangile dans une église morte. On ne dit pas « repentez-vous, convertissez-vous ». On dit « ah, nous sommes tous baptisés, donc nous sommes tous des bons chrétiens ». C'est terrible, une église morte, elle fait peut-être plus de mal pas d'église du tout. Alors le Seigneur parle à l'église d'Éphèse et on ne peut pas s'empêcher de penser à notre église forcément chaque fois que Christ parle. Il commence par une louange, assez longue d'ailleurs. Cette église d'Éphèse avait plein de qualités. Il dit « tu as beaucoup d'œuvres ». Tu travailles dur, et le mot travail, là c'est le mot travail dur. Tu as un labeur, vous savez ce vieux mot français, le labeur, ça veut dire tu mets de la peine, tu mets des efforts. Alors des efforts pour quoi faire? Apparemment c'était pour servir le Seigneur, pour évangéliser. En plus c'est une église qui ne peut pas supporter les méchants, c'est-à-dire qui vraiment fait une distinction entre la vérité et le mensonge. Elle a même écarté des faux apôtres qui se présentaient aux églises en disant « nous sommes des apôtres de Christ » alors qu'ils n'en étaient pas. C'est une église avec du discernement. Tu les as trouvés menteurs. C'est une église, verset 3, qui persévère, qui a souffert pour le nom de Christ. Une église qui a été persécutée et qui a tenu ferme dans la persécution. Il dit même qu'elle ne s'est pas lassée. Quand on est persécuté, quand on est... harassé, comme on dit, hein, par le gouvernement ou par des ennemis, il y a un moment où on peut se lasser. Je pense à tous nos frères dans le monde hein, qui subissent soit les problèmes des gouvernements, soit les problèmes d'attaque physique, hein, notamment dans les pays, certains pays musulmans. Je me dis, comment font-ils pour ne pas se lasser? Pour ne pas dire, bon, moi j'en ai marre, je fais mes valises et je m'en vais. Mais bon, où aller? Et puis, on aime son pays. On veut que son pays soit béni. Alors, beaucoup restent, prient, demandent à Dieu sa protection, sa grâce, et ils persévèrent. Combien c'est précieux, ces personnes-là, ces chrétiens-là. Et on doit prier pour eux. En France, on a cette chance d'être libre. Personne ne vient nous embêter hein, parce que nous sommes chrétiens. Prions que ça dure. Une église qui travaille, une église qui discerne, une église courageuse. Franchement, moi j'aimerais déjà que notre église soit comme ça. Le zèle d'abord, hein. Le travail dur. Il ne disait pas, oh, moi je viens à l'église le dimanche matin, puis c'est tout, attention, ne me demandez rien de plus. Hein. Ça, ce n'est pas une église qui travaille. Une église qui travaille, c'est une église qui est à l'œuvre, qui a des projets venus du Seigneur, qui évangélise, qui aide ceux qui sont en difficulté, où on s'entraide les uns les autres. Une église qui prie, une église qui enseigne. Voilà une église qui travaille. Et puis une église qui a du discernement. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui disparaît aussi de plus en plus. Il y a une pensée qui vient du monde de l'entreprise. Si vous voulez qu'il y ait du monde dans votre église, ne soyez pas trop exigeants. Surtout au niveau de la doctrine. Acceptez un peu tout. Et là, vous allez avoir du monde. Effectivement, c'est automatique. Vous avez toutes sortes de personnes, de chrétiens, de tous bords, de tous milieux, qui viennent et qui sont confortables parce que on ne va jamais en détail dans la Bible. On parle de choses très pratique, très générale, d'aimer les autres, d'être un bon mari, une bonne épouse. Et tout ça, c'est très important, c'est très utile, mais on n'entre jamais dans l'enseignement biblique vraiment. Or, quand vous lisez les premières églises, hein, notamment l'église à Jérusalem, qui a été fondée par le Saint-Esprit avec les apôtres, il est dit que les chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire que l'enseignement, la doctrine, c'est un autre mot pour la doctrine, c'est exactement pareil. Enseignement, doctrine, c'est pareil. était un élément essentiel de cette Église. Il y avait la prière, le repas du Seigneur, la communion fraternelle, l'évangélisation, et il y avait l'enseignement. Si on n'a pas l'enseignement, l'Église est faible, parce qu'il n'y a pas de conviction profonde. Et ça fait des chrétiens qui sont à tout vent. Un coup, il y a une nouvelle doctrine. Ah, oh, écoute, j'ai lu ce livre, c'est ça qu'il faut faire maintenant. Non, non, mais non, c'est... Et ça fait des églises où il y a une confusion. Et les chrétiens, au lieu d'être solides, fermes, d'avancer dans la foi, ils sont comme un petit bouchon dans la mer, flottant hein, au gré des vents. Le courage, nous en avons besoin. Alors, autant en France, on n'est pas persécuté, autant il faut quand même du courage pour annoncer l'Évangile en France. Essayez d'aller dans la rue et de parler du Seigneur avec des gens. Essayez de témoigner à vos voisins, à vos amis, à vos membres de votre famille. Vous allez vite voir qu'il faut du courage. Il faut du cran parce qu'en face, ça envoie, comme on dit hein, aujourd'hui. On va vous sortir toutes sortes d'arguments. On va dire, mais tu es dans une secte, mais tout ça c'est fini. La Bible, c'est que des légendes. Jésus n'a jamais vraiment existé. Il faut du répondant, hein, il faut du courage pour dire, mais non. Je crois que c'est la vérité. Mais ce qui nous aide à avoir ce courage, c'est quand même notre expérience avec Dieu. Si vous êtes né de nouveau, si votre vie a été transformée, si vous avez ce pardon de Dieu, ben, on peut vous sortir tous les arguments en face. Mais moi, ce que je sais, c'est que j'étais perdu et je suis sauvé. Ce que je sais, c'est que j'étais le cœur vide et que maintenant mon cœur déborde d'amour, de joie, de paix. Ce que je sais, c'est que je ne savais pas où j'allais, je ne savais pas quelle était la direction, le sens à ma vie, mais aujourd'hui, je sais d'où je viens et où je vais. Ça, je le sais et personne ne peut me l'enlever. Maintenant, qu'est-ce qui n'allait pas avec l'église d'Éphèse ? Il y a un « mais » terrible au verset 4. Mais juste avant d'aborder ce « mais », j'aimerais dire que le Seigneur a pris la peine de compter, d'analyser les bonnes choses. Et c'est consistant dans tout le Nouveau Testament. Chaque fois que Paul, par exemple, écrit à une église, il commence par les bonnes choses. Je pense notamment à l'église de Corinthe, qui était la pire dans le comportement déviant. Eh bien, si vous lisez l'épître aux Corinthiens, la première épître, vous allez voir, il commence en faisant vraiment une description. On dirait que c'est une église parfaite. Et puis après, dans les détails, on voit qu'il y a des gros problèmes. Mais je pense que quand Dieu nous voit, il n'est pas injuste, dit la Bible. C'est l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, qui dit ça. « Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints, aux chrétiens. » Donc, Dieu voit notre travail. Ça, c'est bien pour les parents aussi, quand vous élevez votre enfant. Quand on est parent, on est un peu exigeant, on veut que notre enfant soit parfait, qu'il réussisse tout, qu'il ne se trompe jamais, et donc on ne le rate pas, chaque erreur, hop, erreur. Alors, c'est vrai, ce sont des erreurs, mais votre enfant, au bout d'un moment, il n'en peut plus. Et avant de dire erreur, il faut commencer par dire, ça c'est bien, et ça c'est très bien. Bravo, là tu as progressé, etc. Mais, et alors là, on a le « mais » du verset 4. Et c'est comme ça qu'on progresse. Si on ne vous dit jamais vos erreurs, vous n'allez jamais progresser. Hein. Ça, c'est l'autre côté. Si vous attendez les enfants que vos parents vous disent « Oh, c'est bien, tout ce que tu fais, très bien, c'est merveilleux », c'est que vos parents ne vous aiment pas beaucoup. S'ils vous aiment vraiment, ils veulent que vous avanciez, que vous progressiez. Mais pour progresser, il faut encourager et puis il faut pointer les erreurs. C'est ce que fait le Seigneur avec les églises. « Mais » ce que j'ai contre toi, et là c'est fort quand même, hein, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Pendant longtemps, quand j'ai lu ce verset, je n'ai pas vu le mot abandonné, j'ai vu le mot perdu. Je ne sais pas pourquoi, c'est un préjugé comme ça que l'on a. Tu as perdu ton premier amour. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Il n'a pas perdu son premier amour, il a abandonné, ce qui est pire. Le mot d'ailleurs utilisé, c'est le mot qu'on utilisait pour répudier sa femme dans le divorce. Tu m'as répudié. Tu as répudié ton premier amour. Qu'est-ce que c'est ce premier amour ? Alors là, les couples voit tout de suite de quoi il s'agit, mais si vous n'êtes pas un couple, si vous êtes encore célibataire, le premier amour, ces premiers mois où vous flottez, vous avez des ailes, votre futur conjoint est parfait, vous n'y voyez aucun défaut. Mais vraiment, vous n'arrivez pas à vous chercher, non, je ne vois pas de défaut, elle est parfaite, il est parfait. Mais surtout, vous êtes prêt à donner votre vie pour votre fiancé ou votre fiancée. Vous faites des kilomètres. Je me souviens quand je fréquentais Gina, comme on ne voulait pas le dire à l'église au début, puisqu'on fréquentait sans savoir exactement. Mais le soir, après l'étude biblique qui finissait vers 10 heures, je la raccompagnais chez elle et j'arrivais chez moi à minuit. Et puis on se voyait à la réunion de prière pareil et je rentrais chez moi à minuit. Bon, je dormais moins. Mais j'étais prêt à faire des kilomètres en métro pour la raccompagner chez elle et passer chaque minute avec elle. Et puis les couples le savent. Ils m'attendent là. Avec les années, on n'est plus prêt à raccompagner aussi loin, à passer plus de temps. Mais ce n'est pas simplement que l'on perd, que ça se diminue comme ça. C'est que quelque part, on ne fait pas l'effort, on abandonne. On n'entretient pas ce premier amour. Et nous sommes responsables de ne pas l'avoir entretenu. Ce n'est pas que on dit souvent, oui, mais la vie, tu sais, moi je travaille, alors on a les enfants, les machins. Non. Ça doit être une priorité aussi dans un couple. Est-ce que j'entretiens mon premier amour? Parce que ce premier amour, il est précieux, c'est comme le premier feu que vous avez allumé. Vous voulez qu'il dure le plus longtemps possible, il faut mettre du bois dedans. Il faut enlever les cendres, les scories, et il faut mettre du bois pour que ça vive. Il faut qu'un amour soit entretenu. Maintenant, je quitte les couples et je parle de l'Église avec Jésus-Christ. L'Église d'Éphèse avait laissé tomber son premier amour pour Christ. C'est curieux parce qu'une église zélée, courageuse, persévérante, avec du discernement, on dit mais comment ils ont fait? C'est pas possible. Pourquoi ils ont fait ça? C'est qu'on peut s'enorgueillir d'abord. On peut dire, mais voilà, nous sommes une bonne église, on a tant d'années, on a tant de membres, on a tant d'offrandes, on est là, on est établi. Et laisser tomber l'amour pour Christ, c'est-à-dire on se concentre sur le fonctionnement de l'église. On devient une entreprise avec ses cadres, avec ses employés, et c'est une entreprise qui marche bien. Un train qui avance, mais il n'y a plus l'amour pour Christ. On n'a pas entretenu cet amour qui nous motive. Et ce qui arrive au bout d'un certain temps dans une église comme ça, c'est qu'elle perd finalement son zèle, son courage et son discernement. Pourquoi l'église d'Éphèse ne l'avait pas encore perdue ? Parce que Christ l'a averti à temps. C'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur. Il nous avertit avant que ça commence à vraiment se dégrader. Et là, il dit, ah, tu as abandonné ton premier amour. Ça veut dire que dans le futur, ça va aller très mal. Et je vais devoir enlever ton chandelier. Alors c'est maintenant qu'il faut revenir et se repentir. Il y a aussi des chrétiens qui abandonnent leur premier amour. Ils deviennent des chrétiens de tradition, ils vont à l'église, ils lisent un peu la Bible, ils prient un peu, mais ils ont perdu le sens. Quand on s'est converti, et beaucoup d'entre nous, nous sommes des premières générations de convertis, on n'a pas forcément été élevés dans la foi, on s'est converti plus tard, à l'adolescence ou plus tard même. Quand on s'est converti, c'était fort. On a découvert l'amour de Dieu. On dit, mais c'est pas possible, je suis passé à côté de ça. Et on voulait, on lisait la Bible sans arrêt, on citait tout le temps et on priait tout le temps, on allait à toutes les réunions. Je me souviens, alors les premiers temps, je n'avais pas l'habitude d'aller à l'église, donc j'allais que le dimanche matin. Il ne fallait pas me demander plus. Mais quand j'ai commencé à vraiment, après mon baptême, j'étais rempli de ferveur, j'allais à toutes les réunions, j'en manquais pas une. Et on avait des réunions de prière tous les soirs, je me souviens, quasiment. Tous les soirs, j'étais là, je rangeais les chaises. Bon. Est-ce qu'on garde cet amour? Pourquoi je faisais ça? Parce que j'étais reconnaissant au Seigneur, je l'aimais. Et un chrétien et une église peuvent perdre cet amour. Dans l'Épître aux Éphésiens, il dit que nous devons professer la vérité dans l'amour et croître à tous égards en celui qui est le chef, Christ. S'il n'y a pas Christ au centre, on ne va pas croître. S'il n'y a pas l'amour pour Christ, notre église va s'éteindre. Notre chandelier va s'éteindre. Paul continue en 2 Corinthiens 11. « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Qu'est-ce qui est merveilleux dans l'amour ? C'est que tout est simple quand on aime. Quand on aime, il n'y a pas de complications. Quand on aime d'un amour sincère et vrai. Si l'autre a un problème, c'est résolu. Si l'autre vous fait une offense par amour, mais quand il n'y a plus l'amour, tout petit problème devient énorme. Tout petit défaut, petit problème dans les rouages, ah, ça coince parce qu'il n'y a plus l'amour qui fait tourner les choses. C'est vrai dans un couple et c'est vrai dans l'Église avec Christ. Si Christ n'est plus le centre de notre amour, de notre adoration, de notre zèle, alors c'est quoi le centre ? Ah, nous voulons grandir, nous voulons ceci. Nous... Ça, c'est des buts humains, charnels même. Le but du chrétien, c'est de grandir en Christ, avec Christ, par amour pour Christ. On peut être gentil, on peut être fidèle aux réunions, on peut être moral et avoir abandonné son premier amour. Et chacun de nous est responsable de l'avoir abandonné, de ne pas l'avoir entretenu. Comment revenir ou entretenir notre premier amour ? Ici, il y a trois R, si ça peut vous aider à vous en rappeler. Rappelle-toi, repens-toi, reviens. Les trois R. Et c'est valable pour tous les péchés, je dirais. Rappelle-toi d'où tu viens. Rappelle-toi ton premier amour, comment il était. Rappelle-toi du jour où tu l'as laissé tomber aussi. Quelque part, quelque chose est arrivé dans ta vie. Tu as laissé tomber ton premier amour. Tu as peut-être eu une déception. Ou tu as peut-être eu une confusion, quelqu'un qui t'a troublé. Et à partir de ce moment-là, tu n'avais plus cet amour clair et limpide pour le Seigneur. Tu as commencé à avoir un amour troublé. Et tu as laissé peut-être une idole dans ta vie venir avec Christ. Et maintenant, tu as Christ et ton idole. Et tu n'as plus le cœur que tu avais avant. Imaginez, hein, vous êtes avec votre épouse et puis d'un seul coup, il y a une autre femme qui rentre dans votre vie. Ça ne va pas bien marcher là. On ne peut pas aimer deux femmes correctement, contrairement à ce que pensent certains. Notre cœur ne peut aimer qu'une personne et notre cœur spirituel ne peut aimer que Dieu. Toute idole viendra éteindre l'amour. C'est fort parce que les idoles, ça va vite, hein. Ça peut être du sport, ça peut être le travail, ça peut être l'argent, ça peut être quelqu'un, ça peut être... Il peut y avoir plein de choses qui remplacent Christ. Et il faut veiller tout le temps. Christ est premier. On a chanté tout à l'heure, Jésus sera le premier pour moi. Seigneur, est-ce que tu es vraiment le premier ? Est-ce que je te mets en premier en tout ? Est-ce que tu es... C'est toi qui passes avant ? Ou est-ce que je dis, attends Seigneur, d'abord il faut que je fasse ça. Attends Seigneur, alors d'abord il y a ça. Rappelle-toi d'où tu viens, d'où tu es tombé. Il y a des personnes qui ont l'air comme ça, très bien, très solides, et du jour au lendemain, ils tombent. Ils disent, c'est pas possible. Ce chrétien, il avait l'air tellement convaincu, tellement solide, et puis là, il est tombé dans un péché, mais vraiment, j'ai du mal à le croire, quoi. Mais c'est qu'il y avait quelque part une faille, là, une fente, quelque chose qui était fissuré dans leur vie. Et cette fissure, c'est qu'ils avaient abandonné leur premier amour. C'était le cas de l'église d'Éphèse. Elle était solide sur tous les points, sauf l'amour pour Christ, pour Dieu. Et quand vous êtes un chrétien comme ça, que vous avez cette petite fissure, sachez qu'une fissure ne fait que grandir. Ne dites pas, oh, ça va se colmater tout seul. Non. Les fissures ne se colmatent pas, les fissures grandissent, s'écartent. Et un jour, boum, vous tombez. Il y a des pasteurs qui sont tombés dans des péchés d'adultère ou de vol, de mensonges graves. Parce que quelque part, ils ont laissé cette petite fissure. Repens-toi, et ça, c'est tout simple aussi, c'est-à-dire reconnais ta faute, reconnais ton abandon, et dire, Seigneur, oui, c'est moi, c'est de ma faute. C'est pas la faute de l'Église, ou des Églises, ou je ne sais pas qui. Souvent, hein, quand on est déçu par des chrétiens, on dit, oh là là, moi, je ne veux plus aller à l'Église parce que ces chrétiens-là, alors, j'en ai assez. En fait, on est en train d'abandonner son premier amour. Les chrétiens sont très imparfaits. Ils ont beaucoup de travail spirituel à faire. Ils ont des péchés aussi. Hein? Mais Christ nous appelle à rester dans nos églises et à servir dans nos églises, à persévérer par amour pour lui, pas par amour pour l'église. Bien qu'on doit aimer notre église, on doit aimer nos frères et sœurs, le premier amour qu'on doit donner, c'est à Christ. Repens-toi. Fais demi-tour. Reconnais que là, tu as laissé tomber ton premier amour à ce moment-là et que depuis, tu n'es plus le même chrétien. Tu as perdu ton zèle. Reviens. Le troisième R. Rappelle-toi, repens-toi, reviens. Et c'est vraiment comme le fils prodigue qui revient à son père. Il y a des chrétiens qui ont besoin de revenir. Revenir à l'église d'abord, mais surtout revenir à Dieu. Est-ce que vous vous êtes éloigné? Est-ce que vous avez abandonné votre premier amour? Est-ce que quelque part vous avez perdu, hein, le long du chemin ce qui faisait votre joie, votre zèle, votre amour? Vous êtes un chrétien un peu endurci, un peu blasé. C'est le moment de revenir. Vous revenez au Seigneur. Seigneur, voilà. J'ai péché. Seigneur, j'ai abandonné mon premier amour, mais je reviens dans tes bras. Seigneur, tu es le premier dans ma vie. Je te redonne la première place. Je t'avais enlevé, hein, de mon piédestal, je te remets à la première place. Et ce qui était à la première place, je le descends. Ça, c'est dur, hein, de descendre les choses, de changer ses priorités. Le Seigneur d'abord. Ça demande un certain courage, mais c'est essentiel. Reviens. Je pense à la femme dans le Cantique des Cantiques. Son amoureux, son amant, son amour est venu frapper à sa porte et elle n'a pas voulu lui ouvrir parce qu'elle avait les mains pleines d'huile parfumée et ne voulait pas se lever, se salir. Et puis, finalement, au bout d'un moment, elle se dit quand même, je vais lui ouvrir. Et quand elle vient, il n'est plus là. Alors elle court dans les rues de Jérusalem en demandant partout, « Oui, mon bien-aimé !» Il y a des chrétiens qui ont besoin de ça. Ils ont dit au Seigneur, « Attends, j'ai d'autres priorités dans ma vie. Là, en ce moment, tu vois, j'ai des problèmes. Alors, je ne veux pas trop aller à l'église, je ne veux pas trop prier, je ne veux pas trop évangéliser, je ne veux pas trop... Laisse-moi un temps, là, Seigneur. » Et puis, on se rend compte que quand on a mis le Seigneur de côté, notre vie commence à tomber de tous les côtés. On n'a plus le discernement, on n'a plus la sagesse, on n'a plus le zèle, on fait des mauvais choix, des mauvais calculs, on commence à se fâcher avec les gens, on perd sa maîtrise de soi, sa joie, on perd tout. Et on dit, oh, faut que je revienne au Seigneur. Seigneur, je reviens, où es-tu? Et le Seigneur est parti. Hein? Faut aller le rechercher, là. Faut aller dans les rues. Seigneur, où es-tu? Dites-moi où est le Seigneur. Ça demande quelque part un effort de revenir à Christ. Ça demande un effort, une persévérance. C'est vrai que le Seigneur nous pardonne immédiatement quand on lui demande pardon, parce que son sang a coulé pour nos péchés. Mais pour revenir à Christ, il faut un certain temps de persévérance, de le chercher, pour retrouver cette communion qu'on avait parfaite, cet amour. Est-ce qu'il y a des chrétiens ce matin qui sont concernés? Déjà en tant qu'Église, et ce n'est pas à moi de parler pour toute notre Église, mais en tant qu'Église, nous sommes en danger d'abandonner notre premier amour. Et c'est à chacun de nous de s'en rendre compte et de dire, Seigneur, je veux que tu sois le premier, je veux t'aimer de tout mon cœur, de toute ma force, pas juste avec un cœur à moitié. Ça demande qu'on se rappelle notre conversion, nos premiers jours avec Christ. Ça demande qu'on se repente et qu'on revienne. On va terminer par la prière. Le Seigneur Jésus-Christ est au milieu de nous. C'est lui le chef de notre Église. Et il passe dans nos rangs et il s'arrête avec chacun. Il voit le bien, il voit les forces, les victoires, mais il voit aussi le mal, les péchés, les désobéissances, les idoles. Et il dit, reviens, ne t'éloigne pas plus. Reviens maintenant, repens-toi, parce que tu es en train d'abandonner ton premier amour. Reconsacre ta vie à Dieu. Demande au Saint-Esprit de te remplir le cœur et d'enlever toutes les idoles qui viennent le souiller. Demande à Jésus-Christ de purifier ta vie, tes pensées, ton âme, encombrée par des péchés, des désobéissances, des souillures, des choses que tu n'aurais pas dû voir, faire, penser. Repends-toi, dit le Seigneur. Reviens. Seigneur, nous voulons revenir, repentant. Nous ne voulons pas prendre un chemin qui s'éloigne de toi petit à petit, mais nous voulons prendre le chemin qui nous rapproche de toi. Merci de ton avertissement, Seigneur, de ta miséricorde, ta patience. Et de ton amour pour les églises, parce que tu aimes profondément les églises que tu as fondées. Et tu veux qu'elles soient pures et saintes. Loué soit ton nom, Seigneur. Amen.